Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite pour Radio Ville-Marie par l'Institut de pastoral des Dominicains dans le cadre de son 50e anniversaire. Ici Francine Robert, en remplacement de Christine Cossette. Mon invité aujourd'hui est Pierre Francœur, qui est clerc de Saint-Viateur. Il est formé en théologie et en spiritualité et c'est un collaborateur de longue date à l'Institut de pastoral où il donne plusieurs cours en spiritualité, en histoire de la spiritualité aussi. Et il donne aussi un cours sur l'expérience de la conversion. C'est de ce sujet qu'il nous entretiendra aujourd'hui. Il arrive, oui, que quelqu'un change subitement et de façon assez magistrale. Quelqu'un peut changer toute sa façon de voir, sa façon de vivre et de se percevoir lui-même. Et souvent, les gens qui changent ainsi parlent d'une expérience intérieure intense, associée souvent à la prise de conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Et cela s'appelle expérience de conversion. Alors, Pierre Francœur nous aidera à comprendre cette expérience, ses dynamismes, ses causes, comment aussi distinguer dans ce type d'expérience celles qui produisent des effets durables et celles qui pourraient n'être qu'un emballement passager. Pierre nous parlera aussi de quelques témoins importants dans l'histoire spirituelle qui ont eux aussi vécu cette expérience de conversion. Pierre Francœur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission sur un sujet qui est complexe, je pense. En tout cas, moi, je le perçois comme complexe. La conversion, c'est pas rien. Ça apparaît comme quelque chose de radical. Et pour la plupart des gens, en tout cas pour moi, pour d'autres aussi, se convertir, ça veut dire avoir changé de religion, hein, ou encore avoir été athée et être devenu croyant. Mais en parlant un peu avec vous avant l'émission, je comprenais que c'était pas tout à fait ça, votre définition. Alors, allez-y donc, d'une première esquisse, c'est quoi la conversion, Pierre?
La conversion, c'est un changement, c'est évident. Convertere, en latin, c'est l'origine du mot, ça veut dire se tourner vers. Alors, la conversion, c'est des gens qui, dans leur vie, se tournent vers autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Alors, ça peut être des gens qui n'avaient pas du tout de religion dans leur vie, puis qui, à un moment donné, découvrent que la religion existe et qui se convertissent parce qu'ils ont rencontré dans cette religion-là un texte, une expérience qui les a fascinés. Fait que ça peut être des gens qui deviennent catholiques, ça peut être des gens qui se convertissent au judaïsme, à l'islam. Alors, il y a des gens, on dit, c'est un converti, il vient d'arriver dans une religion. On peut se convertir aussi à des causes. Devenir pacifiste, devenir végétarien, devenir militant pour tel ou tel parti politique ou plus social. Bon, il y a quelque chose dans notre vie, en tout cas, qui change, qui nous fait porter un regard nouveau sur notre personne et sur le lien qu'on a au monde. Quand on parle de religion en termes, de conversion en termes, je dirais, plus catholiques, ça peut être une conversion qui fait que on ne connaissait pas le Dieu de Jésus. Et on le découvre, c'est l'expérience de saint Paul, c'est l'expérience de saint Augustin, qui en avait entendu parler, mais à un moment donné a fait une expérience dans un jardin, de la découverte et de la rencontre de Jésus. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre dans la religion catholique, c'est que la conversion est liée à la rencontre d'une personne qui s'appelle Jésus, et tous les textes qu'on lit depuis Pâques, hein, Pâques c'est il n'y a pas longtemps, oui. Les textes après la résurrection, c'est des gens qui font l'expérience de rencontrer Jésus autrement. Il était mort, ils font l'expérience qu'il est vivant. Mais la conversion, là, c'est beaucoup dans cette ligne-là, de rencontrer Jésus comme un vivant. Vous avouerez que ça peut changer les perspectives d'une vie.
Oui, en effet, mais le rencontrer, on rencontre pas Jésus ressuscité au coin de la rue, au dépanneur, excusez-moi, je sais que c'est pas ça que vous voulez dire.
Tout à fait.
Mais vous en parlez comme si c'était évident, ça l'est pas pour moi.
Non, ben ça l'est pour les gens qui font l'expérience,
ah,
justement.
Oui. Allez donc dire que je suis pas une convertie, je le savais.
Oui, je le sais. Non, mais vous savez, c'est cette expérience-là de voir la vie autrement, Parce qu'évidemment, rencontrer Jésus, faire l'expérience qu'il est vivant, ben écoutez, vous avouerez que ça a des conséquences sur mes comportements, ma façon de voir les choses, parce que ça me met en lien avec l'Évangile, ça me met en lien avec la communauté de l'Église, ça me met en lien avec les sacrements. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut être aussi quelqu'un qui, à l'intérieur même de sa foi chrétienne, de sa religion chrétienne, on peut être invité aussi à la conversion, c'est-à-dire à prendre de plus en plus au sérieux le fait que Jésus, dans ma vie, est quelqu'un d'important et quelqu'un de vivant. Oui. Alors, on pourrait dire qu'on a une conversion de la non-foi à la foi, mais on peut aussi dire qu'on peut être invité, parce que la conversion, c'est une invitation, de la foi à une plus grande foi, puis en conséquence, à un plus grand engagement. Alors, la conversion, ce qu'il faut bien comprendre, d'après moi, c'est que c'est un appel de Dieu, c'est une initiative de Dieu à une personne qui répond librement. Chez saint Ignace de Loyola, par exemple, qui a vécu dans les années 1500, lui, c'est en allant à la guerre, il a été blessé, puis il s'est retrouvé en convalescence, puis il s'est mis à réfléchir sur le sens de sa vie, il a lu les évangiles, puis il a découvert Jésus dans sa vie.
Oui.
Puis comme conséquence, ça a fait que ça a transformé sa vie, c'est devenu un grand converti, puis qui a réfléchi beaucoup l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand je découvre Dieu dans ma vie. Vous savez, il y a bien des gens qui tombent en amour.
Ah oui, ça c'est plus fréquent. J'avoue.
Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire des poèmes sur l'amour, qui est capable de composer des symphonies, qui est capable de faire des toiles qui nous émeuvent. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont le génie de nommer ce qui leur arrive. Et le grand génie de Saint-Ignace, ça a été de nommer qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un humain quand il se convertit. Toutes les étapes par lesquelles il passe. Au début, il est tout mêlé. Après ça, il se rend compte qu'il mène une vie qui n'est pas selon ce qu'elle devrait être, parce que il vient de rencontrer Jésus, puis je vis dans le péché, puis je vis pas conformément à l'Évangile. Fait que je regarde tout ça. Je découvre que Dieu m'aime. Après ça, je découvre que Dieu m'aime moi. Je découvre qu'il me demande de m'engager moi à sa suite. Après ça, il me dit, je te confirme que t'as bien fait de me suivre. Puis après ça, il m'invite à l'engagement. C'est au fond les étapes de ce qu'on a appelé les exercices spirituels. C'est-à-dire cette espèce d'acte de génie, de décortiquer tout ce qui se passe dans un processus de conversion, de découverte de Jésus, les conséquences que ça a dans ma vie, les engagements que ça provoque, puis au fond, l'augmentation de ma charité. C'est un exemple.
Oui.
Madeleine Delbrel, elle a vécu dans les années 1904 à 1964, une Française, une femme très engagée sur le plan social.
Mm-hmm.
Elle, au début de sa vie, elle a rejeté Dieu, elle dit, elle avait 17 ans, elle dit, Dieu est mort, c'est réglé. Autour de 20 ans, elle le dit elle-même, j'eus soudain le goût de prier. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a eu un goût de prière. Elle raconte à un prêtre, dans le mouvement scout, parce qu'elle s'occupait des petites Jeannettes, des guides, là.
Oui.
L'abbé Lorenzo, qui était un homme extrêmement brillant, qui y fait découvrir l'Évangile. Puis c'est une des premières à discuter avec un prêtre d'une actualisation de l'Évangile. Écoutez, là, on est dans les années 30, là. Aujourd'hui, les chrétiens qui se réunissent pour parler de l'Évangile, c'est fréquent. Mm. Mais dans les années 30, c'était révolutionnaire,
oui.
C'était prophétique.
Oui.
Alors, Madeleine découvre avec cet homme-là la richesse de l'Évangile, puis échanger, discuter. Puis là, après ça, elle découvre qu'elle doit s'engager comme travailleuse sociale dans les banlieues communistes de Paris, ce qui fait que c'est une femme qui a eu beaucoup à nommer, à confronter, puis à actualiser sa foi en Jésus, parce qu'elle signait les mêmes papiers que les communistes par rapport à l'État français. Mais elle a donné un autre sens à ça.
Oui.
Au lieu de vivre le monde en opposition pas en dialectique, elle vivait le monde en profondeur de miséricorde, de la tendresse de Dieu pour notre monde.
Ah oui.
Alors la conversion, c'est une façon de voir la vie en prenant, dans la mesure où je le peux, les mêmes yeux que Jésus.
Okay.
Donc établir un monde de justice, établir un monde de paix, établir un monde de compassion.
Oui.
Vous allez me dire, il y a plein de monde qui font ça, oui, mais si je parle d'une conversion chrétienne catholique, c'est des gens qui, à cause de leur rencontre de Jésus-Christ, sont plus attentifs à ces réalités.
D'accord. Vous m'avez donc parlé de Saint-Ignace de Loyola, de Madeleine Delbrel. Dans les deux cas, vous parlez d'un délai, hein, Ignace qui a eu à réfléchir. Chez Madeleine Delbrel, c'est à travers son expérience d'engagement social. C'est curieux parce que l'image qu'on a de la conversion, Pierre Francaire, c'est soudain. Hein? Bon, et puis si je prends l'image au premier degré, c'est Saint Paul qui se fait jeter en bas de son cheval. Et bon, même si on sait bien qu'il n'y a pas de cheval dans le récit du livre des Actes, c'est au chapitre 9 pour les gens intéressés du livre des Actes des Apôtres. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'image qu'on a, quelque chose de soudain, de sorte qu'il y a un avant puis il y a un après, puis c'est comme ça, zouk, en 10 minutes ou en 1 heure d'extase. Ou... Peut-être que je confonds la conversion avec les expériences d'extase aussi, je sais pas, là. Mais vous êtes là, heureusement, pour m'éclairer.
Vous savez, vous avez raison, il y a des expériences de conversion qui sont des chocs. La blessure de Saint-Ignace, ça a été tout un choc parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, puis il n'était pas parti faire la guerre pour se retrouver en villa de, comment dirais-je, de convalescence. Saint-Paul, il partait pas. D'abord, il s'appelait Saul, puis il partait pas pour devenir chrétien, il partait pour les persécuter. Alors, il s'est passé quelque chose. Alors, la conversion, ça peut être un choc, mais la conséquence du choc, de toute façon, à un moment donné, ça devient un choix. Ça devient « j'accepte cette rencontre et elle transformera ma vie ». Parce que, écoutez, il y a des gens qui vivent des chocs, puis ça ne change rien dans leur vie. Puis il y a d'autres gens qui vivent un choc, puis ils réfléchissent à partir de Dieu. Je vais donner un exemple très simple.
Oui.
Vous avez deux jeunes en auto qui font une course. OK? Un a une petite calotte rouge, l'autre a une petite calotte bleue. Ça marche?
Oui.
Bon. Et puis, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, ils frappent, je ne sais pas, une plaque de glace, puis les deux se retrouvent dans le décor. D'accord? Il se retrouve à l'hôpital. Une casquette bleue a le lit A, la casquette rouge a le lit B. La casquette rouge, lui, il est choqué, il est enragé, il sac, il n'y a rien qui ne fait pas. Lui, là, c'est un accident, c'est la faute à l'autoroute, c'est la faute à l'auto. En tout cas, bref, il ne prend pas. L'autre, lui, sa grand-mère vient le voir, puis elle dit, « Mon Dieu, t'es sauvé. » Puis il donne un chapelet. Sa mère vient, puis elle dit, « Mon Dieu, la Sainte Vierge t'a protégé. Je suis donc contente que tu ne sois pas mort. C'est probablement parce que le bon Dieu attend quelque chose de toi. » Lui, il se fait interpréter l'événement par des gens croyants. Il y a des bonnes chances que parce que c'est du monde qu'il aime, puis probablement qu'il a été élevé dans ce milieu-là, lui risque de comprendre cet accident-là, qui est neutre en lui-même,
oui.
Mais comme un temps de conversion, parce qu'il va se dire, au fond, si je suis pas mort, peut-être que c'est parce que Dieu, un, a pris soin de moi, puis deux, peut-être qu'il veut que j'aille une mission à accomplir sur la terre. Alors, l'événement, il est neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est la manière que je l'interprète.
Oui.
Alors, il y a des chocs qui sont des chocs, point. Puis il y a des chocs qui peuvent devenir, si j'en fais un acte de liberté avec une lecture de Jésus dans l'événement, là, ça peut devenir un processus de conversion. Alors, la conversion, c'est un choc peut-être, mais qui a des conséquences, puis qui fait qu'au fond, la conversion, c'est un appel constant de Dieu à de plus en plus lire ma vie avec lui. Moi, j'appelle ça, la conversion, c'est un lieu de religion. Ce que je veux dire par religion, c'est le sens étymologique du mot,
oui.
Religere, qui veut dire relié à. Alors, je me relie à quoi? Je me relie à Jésus. Donc, la conversion, ça peut être une occasion de religion, c'est-à-dire de relier, du verbe lier, ma vie à mon expérience de Jésus. Alors, le petit gars qui est dans le lit B, c'est un bon petit gars, mais lui n'a absolument pas vu dans cet accident-là une occasion de relier sa vie à son expérience de Dieu. Lui, il va attendre de guérir, puis il trouve pas ça drôle, puis il trouve ça bien long. Un autre va vivre la même expérience, mais va la vivre avec Jésus, en essayant de trouver un nouveau sens à sa vie, puis probablement en reconstruisant beaucoup de ses relations à partir d'une nouvelle conscience puis d'une nouvelle connaissance qu'il a faite Jésus dans un événement. La conversion, c'est pas automatique. La conversion, à un moment donné, c'est un choix. À un moment donné, c'est une façon de dire, je pense que dans ça, Dieu m'aime. Donc, dans la conversion, il y a un travail, il y a une découverte, puis c'est sûr qu'il y a une grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est quand Dieu intervient dans ma vie. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'il faut avoir un accident pour se convertir? Absolument pas.
Non, mais si je reprends votre exemple de Ignace, c'est vrai que ça m'a quand même donné à penser à beaucoup de personnes qui se mettent à soulever les questions existentielles à l'occasion d'une situation qui fait s'effondrer la routine métro-boulot-dodo, finalement. Et que là, voilà, les questions de sens à la vie, de spiritualité en général vont être posées souvent lorsqu'on a failli perdre la vie ou qu'on a perdu un enfant. Alors, c'est un peu comme Ignace ou comme votre garçon à la calotte, je ne sais plus trop quelle couleur. Ça va.
Tout à fait.
Par contre, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui me rappelle un élément d'un de vos petits bouquins que j'ai feuilleté avec plaisir et dont on donnera les titres à la fin de l'émission. Vous me parliez de l'autre jeune qui reçoit la visite de sa grand-mère, sa mère, qui font un lien avec Jésus ou Marie, en l'occurrence c'était Marie, c'est un peu comme le Hanani de l'expérience que vous analysez, l'expérience de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Pouvez-vous...
Tout à fait, oui. Parce que j'ai découvert, moi, à force de méditer ça et de lire ça et de l'enseigner, j'étais frappé à un moment donné que quand Paul vit son expérience, d'abord il est chef, et il entre dans Damas en se faisant tenir la main, ce qui est déjà pour un chef toute une expérience de devenir dépendant des autres.
Oui.
Ensuite, il est aveugle. Donc, il maîtrise plus la situation. Il vit une insécurité, il vit quelque chose d'inquiétant, dans des mots modernes, on dirait de stressant. On ne peut pas dire ça chez Saint Paul, il n'a pas découvert ça encore, mais il était sûrement très inquiet. Bon, et là, Dieu intervient à travers quelqu'un. Il va chercher Hanani, qui dit d'ailleurs à Dieu, « Mais sais-tu c'est qui ce monsieur-là? » Et Dieu dit à Hanani, « Oui, je le sais, et je l'ai choisi. »
OK, puis quand Hanani dit ça, c'est pour dire à Dieu, « Tu te rends pas compte? »
De ce que tu fais.
Oui, c'est le persécuteur, là.
Tout à fait. D'accord. Et là, Dieu dit quelque chose d'extrêmement important, « Je l'ai choisi. » Dans la conversion, il faut jamais oublier qu'il y a aussi la vocation. Charles de Foucault disait que sa conversion datait de sa vocation ou que sa vocation datait de sa conversion.
Ça allait
quand l'abbé Huvelin il a dit « Toi, tu te mets à genoux et tu te confesses. » Puis c'est là que Charles de Foucault a complètement changé sa vie, a décidé de s'engager à la suite du Seigneur dans la vie monastique. Puis ça, il est devenu prêtre, bon, puis il est allé dans le désert. Bon, ce qui est très intéressant aussi, l'expérience de conversion de Charles de Foucault. Pour revenir à Paul, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il est là, il est tranquille, et Hanani se fait dire « Va dans la rue droite ». Il y a un homme que j'ai choisi, tu vas lui donner le baptême, puis tu vas le faire entrer dans l'église. Hanani se présente, Paul l'accueille, puis Hanani dit, est-ce que tu veux le baptême? Paul dit oui. Et c'est là, Paul qui racontera plus tard, j'ai été saisi par le Christ. L'idée du saisissement. Quand vous prenez un steak, vous mettez dans la poêle, là, ça fait crrrr. Hein?
Ouais.
Bon. Ben, je pense qu'on peut être saisi comme ça par le Christ. On peut aussi avoir été toujours dans l'eau bénite, avoir passé sa vie dans un climat religieux, profondément religieux. C'est l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite carmélite de Lisieux, qui a vécu dans les années 1873 à 1897. Les gens de Radio Ville-Marie qui me connaissent sont familiers parce qu'ils savent que j'en parle beaucoup. Thérèse de Lisieux parlera la nuit de Noël 1886 de sa complète conversion. Vous allez me dire, c'est tout à fait l'inverse de ce que vous venez de nous raconter. Oui, on peut aussi se convertir en découvrant, dans une expérience de vie, un appel de Dieu à aller plus loin dans sa vie de foi. Puis Thérèse, qui était très repliée, très fermée sur elle-même, très sensible, bébé, dirions-nous aujourd'hui, dans cette nuit-là, comprendra qu'elle doit se tourner vers les autres et qu'elle doit vivre une conversion de charité. Thérèse de Lisieux dira, en un mot, je sentis la charité entrer en moi, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors, je fus heureuse. Alors, Thérèse va vivre une conversion dans un petit événement où son père va manifester une impatience suite à la messe de minuit, puis que Thérèse était bébé, puis qu'elle pleurait en retirant ses jouets, puis tout ça. Puis Thérèse va, au fond, comprendre, Thérèse fait un passage, mûrit, passe de l'enfance à l'adulte. Souvent, dans la conversion, il y a un passage, il y a un changement.
Même donc à l'intérieur, même pour quelqu'un qui reste à l'intérieur
de la foi,
d'une même tradition croyante.
Tout à fait. Il y a un mûrissement.
Si vous vouliez, Pierre, nous parler un peu de ces changements. Vous dites qu'il y a un changement. Je devine qu'il y a plusieurs changements. Est-ce qu'il y a des éléments communs à divers types de conversions, mais qui impliquent toujours des changements semblables? Ou est-ce qu'enfin quelqu'un d'impatient puis qui a mauvais caractère va devenir gentil? C'est, évidemment, je suppose que c'est pas de cette sorte de changement-là que vous voulez parler.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous posez comme question, parce que souvent, quand on entend le mot « conversion », comme moi, j'ai longtemps compris comme ça avant de réfléchir, comme je vous dis, la question, puis de lire là-dessus, de l'enseigner, puis de prier. C'est que la conversion, moi, j'ai longtemps pensé que je devais changer ma personnalité pour plaire à Jésus et me convertir. C'est pas ça l'enjeu. Je reste la personnalité que Dieu a créée, que Dieu a choisie, mais je suis appelé à m'améliorer et bien sûr à poser sur certaines réalités, certaines personnes, un regard différent, un regard nouveau. Tu sais, quand l'Église nous dit, au mercredi des cendres, au début du carême, on a fait ça il y a à peu près une cinquantaine de jours, là, l'Église nous disait, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. L'Église n'a pas dit, Pierre Francoeur, change de personnalité puis aime Jésus. Non, non. Garde ta personnalité, mais sois de plus en plus attentif à la parole de Dieu, à la souffrance des autres, sois un homme de justice, un homme de compassion, un homme de prière. La conversion, au fond, c'est un appel, c'est une invitation à toujours m'améliorer à cause de ma relation d'être avec Jésus. Saint Augustin, qui est un autre grand converti, c'était un grand intellectuel, un professeur de philo. Après sa conversion, je peux-tu vous dire qu'il est devenu un grand professeur de théologie? Oui. Il a parlé de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, mais c'est resté un intellectuel. Hein?
Ouais, ouais.
Bon, Saint Ignace de Loyola, c'était un gars hyper organisé, c'était un militaire. Il a fondé la Compagnie de Jésus, puis dans l'ordre des Jésuites, il y a de la discipline, il y a de l'ordre, puis il y a des études. C'est resté le même Ignace, mais évidemment, au lieu de servir une dame, il servait l'Église. Au lieu de courir après les honneurs, il courait après la charité, après l'humilité. Il restait le même homme, mais il n'y avait pas les mêmes perspectives.
D'accord.
C'est ça la différence.
Ce que je trouve intéressant, particulièrement, je dirais, adapté aux décennies qu'on traverse, c'est que je ne sais pas s'il y a un siècle, on aurait davantage répondu par des changements de comportement. D'une certaine manière, on parlait beaucoup de croire comme étant la bonne conduite chrétienne. Bon, je ne m'attendais pas à ça, évidemment, dans votre réponse, mais je fais juste refléter que ça me frappe, d'ailleurs, dans plusieurs émissions de cette série, comment le croire aujourd'hui est défini en termes de façon de voir les choses, façon de comprendre, façon de se situer par rapport au monde et aux autres. Et bien sûr, il y a des comportements, là, mais on voit bien qu'on n'est pas dans du behaviorisme, pour prendre une catégorie en psychologie. L'enfant converti, c'est pas l'enfant devenu sage.
Non, mais c'est l'enfant qui, en raison de son lien avec Jésus, s'il lit bien l'Évangile, deviendra un enfant ou une personne préoccupée des autres, plus attentif à leurs besoins. Alors, peu importe mon tempérament, peu importe mon caractère, si je suis quelqu'un qui est préoccupé par les autres, ça va forcément avoir des incidences sur ma façon d'être.
Ça devrait, hein? Sinon, ouais, c'est une
évident.
Sorte de conversion en petite sœur chaude.
Oui.
Qui reste dans sa chambre entre moi puis mon Dieu, mais
oui.
Vous appelleriez pas ça une conversion si ça finit pas par aboutir
en charité.
En charité. Ah,
et
oui.
Puis un autre aspect aussi qui est très important que Thérèse d'Avila développait par rapport à des gens qui, est-ce que ce sont de vrais convertis ou simplement des gens qui font à un moment donné une expérience qui les touche, qui leur plaît ou qui les bouleverse, c'est que dans la conversion, il y a une durée. Dans la conversion, il y a un engagement de charité. Et dans la conversion, il y a surtout une grande humilité. Vous savez, il y a des gens qui vivent des choses, et après qu'ils les ont vécues, disent à tout le monde, « Vous comprenez pas, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Vous saisissez pas l'enjeu de mes découvertes, etc. » Ça se peut qu'on saisisse pas tout l'enjeu des découvertes,
oui.
Mais quand ces gens-là disent humblement à un prêtre ou à une personne d'église, en tout cas, ou dans une petite communauté, « Voici ce que j'ai vécu, aidez-moi à le vivre, soyez mon soutien, puis amenez-moi au sacrement », vous êtes dans un tout autre ordre de
oui,
réalité.
Oui.
Alors, la conversion amène à une conversion, je dirais, de charité, amène à un engagement en Église, je veux dire par là, dans un groupe de croyants qui se reconnaît autour des sacrements. Chacun peut trouver son lieu de pratique, son lieu de conversion, mais je pense qu'il faut que ce soit avec d'autres chrétiens qui, ensemble, cherchent l'Évangile. Madeleine Delbrel, elle a créé des groupes qu'elle appelait des petits groupes de la charité, où des femmes... Entre elles, on ira au milieu des gens, on vivra comme des voisines à leur disposition, mais on partagera et on vivra l'Évangile. Elle les a pas forcées à s'en aller dans telle communauté classique de religieuses ou d'une communauté chrétienne précise. Non, nous serons ensemble dans un milieu des femmes qui partagent l'Évangile, qui se soucient du bien-être des autres, puis on fera ça au nom de Jésus-Christ.
D'accord. Donc, il y a un impératif de communion là dans ce que vous exprimez et... C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que parfois certaines personnes ayant vécu une expérience de conversion disent « c'est parce que tu comprends pas ». Parfois c'est vrai qu'on comprend pas, mais il y a une manière de dire ça qui est pas un appel à l'aide, essaye de me comprendre, mais qui est une sorte de « ben garde-moi, je l'ai la vérité, tant pis pour toi si tu l'as pas ». C'est vrai que ça a quelque chose d'un petit peu agaçant. Je dois dire que j'ai rencontré des gens qui ont été irrités parfois par certaines personnes converties, leur radicalité. Il y a quelque chose qui est dépoussiérant, bravo, tant mieux. Puis il y a en même temps quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre, je dirais.
Non, puis c'est pas plus facile à vivre pour la personne qui a découvert dans Jésus-Christ, mais d'une façon tellement profonde, tellement intérieure. Vous savez, il y a des gens, quand ils tombent en amour, ils deviennent très curieux aussi, puis là, ils comprennent pas que tout le monde n'est pas en amour, ils comprennent pas que tout le monde n'est pas heureux. Mais qu'est-ce que tu as pas été heureux? Ben oui, mais eux le sont, tant mieux. Et ils sont dérangeants parce que ils nous rappellent quelque chose que des fois on aimerait vivre qu'on réussit pas à vivre. Il y a des gens convertis qui nous rappellent peut-être que ils aimeraient ça, eux autres aussi, avoir une relation comme ça avec Jésus, mais ils n'ont pas une.
Ouais,
mais ça
ne
veut pas dire que c'est pas du bon monde.
Mais vous mettez le doigt sur quelque chose, là. Moi, je pense que, oui, pour beaucoup de chrétiens qui ont jamais été ébranlés, disons, dans les bases de leur foi, il y a là, oui, quelque chose qui donne le sentiment d'être passé à côté d'une expérience importante, excitante, tripante. Je sais que c'est pas un bon mot français, mais ça dit très bien ce que j'essaie de dire.
Et c'est pour ça tantôt que je vous ai parlé de l'expérience de Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que elle, c'est à travers la quotidienneté de la vie. On revient de la messe de minuit, son père est fatigué, puis il dit « J'espère que c'est la dernière année qu'elle va nous faire une crise de larmes. » Y a-t-il quelque chose de plus banal comme événement, de plus ordinaire? Et ça a été pour Thérèse l'occasion de saisir que Dieu l'appelait à une transformation de charité au cœur même de sa vie. Alors, il y a des choses très simples. Si je sais les lire avec ma relation à Jésus, si je sais ouvrir mon cœur à une certaine présence de Dieu qu'on peut appeler la grâce, c'est très étonnant comment je peux être appelé à une grande conversion. Ah, il ne faut pas se laisser déranger ou mal étonner par des gens qui sont plus absolus, qui ont été vraiment là transformés de façon beaucoup plus, je dirais, violente, c'est pas le bon mot, mais de façon soudaine, oui, puis brusque un peu, parce que dans toute conversion, il y a une période de changement, d'inquiétude. Ça peut être compliqué des fois. Ben écoutez, émerveillez-vous de ces gens-là qui viennent de découvrir Jésus, mais sentez-vous pas touché personnellement, parce que vous allez le découvrir à votre façon. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en Église, on peut tous avoir notre façon de découvrir Jésus, puis ensemble, on fait l'Eucharistie, ensemble, on pratique la charité, puis ensemble, on essaie de donner au monde le meilleur de ce qu'on pense être le meilleur. Alors, les gens convertis, ben bravo. Il faut leur dire des fois, écoutez, choquez-vous pas ou chicanez pas les gens parce qu'ils n'ont pas votre ardeur,
ouais. Ou
c'est la vôtre. Puis les autres, dites-vous pas, ben moi, je vis rien, on sait bien. Non, vous pouvez en vivre autant, mais vous savez, chacun a sa vie. Je peux-tu prendre un autre petit exemple que Thérèse de Lisieux,
oui. Pendant
que j'aime beaucoup? Quand on parle de la conversion, on n'est pas loin de la sainteté, hein? C'est-à-dire la présence de Dieu dans ma vie. Thérèse de Lisieux, ça l'intriguait beaucoup de savoir qu'il y avait des grands saints qui avaient toujours été dans le bon Dieu. Elle dit ça, d'ailleurs, au début de son manuscrit-là. T'as bien intrigué qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler du bon Dieu puis qui n'entendaient parler, puis qu'il y en a d'autres, ça leur faisait absolument rien. Elle dit, comment ça se fait, donc, ça? Fait que sa sœur Pauline, qui était une éducatrice, dit à Thérèse, Thérèse, va me chercher le petit dé de papa à coude, là. Bon. Puis elle dit, remplis le dos. Puis elle dit, à côté, remplis un grand verre d'eau. Et elle dit à Thérèse de Lisieux, lequel des deux qui est le plus plein? Thérèse a dit, ben ils sont pleins tous les deux. Puis elle dit, ainsi en est-il de la grâce et de la sainteté? Ça dépend de notre contenant. Le principal, c'est qu'il soit plein. Alors, il y a des gens qui ont des grands contenants qui sont très pleins puis qui parlent très fort, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus sains que ceux qui ont des petits contenants, mais qui sont pleins. Alors, des grands contenants à moitié vides, vous savez, c'est déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais eux savent très bien qu'il y a encore une moitié à remplir. Tandis que si votre verre à vous, il est plus petit, mais qui est plein, vous êtes très converti, puis vous êtes dans l'amour de Dieu. Fait qu'en spiritualité et en conversion, comme je le dis souvent, on se compare pas. On s'émerveille de ce que Dieu fait dans la conversion des autres et dans la mienne. Si on vivait sous le mode de l'émerveillement de nos conversions, on aurait moins de misère que de vivre dans la comparaison de nos conversions.
Pierre, dans ce que vous avez dit, je comprends bien, donc, qu'on est en processus continu de conversion. Il reste quand même qu'on a l'image de la conversion comme étant quelque chose de soudain et de radical. Il y a un avant, il y a un après, il y a hier et il y a aujourd'hui. Et des gens qui racontent des conversions vont d'ailleurs souvent les raconter comme ça, avant, après. Peut-être que je confondrais et que plusieurs comme moi confondent expérience de conversion et expérience mystique. Est-ce que c'est possible ça, que je confonde les deux peut-être?
Je dirais d'abord que vous n'avez pas tort quand vous dites que en associant conversion à un événement marquant, un événement choc, vous n'avez pas tort. C'est la façon la plus, je dirais, ordinaire. Et même dans le dictionnaire, je pense que c'est ça qu'ils disent au mot conversion, changement d'un état à un autre. Alors, c'est juste qu'est-ce que vous dites. Bon, moi, ma réflexion de chrétien et de professeur et d'accompagnateur parfois de groupe m'a amené à plus réfléchir comme Ignace sur une conversion dans la vie chrétienne de tous les jours, qui m'a amené à ce que je vous dis. Mais vous avez raison quand vous parlez de choc. C'est tout à fait vrai. Il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après. C'est pas faux, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce choc-là ne change pas ma personnalité, change ma perception de la réalité. Ça, c'est important. Parce que des gens qui changent complètement, c'est pas de la conversion, c'est en général ça des expériences fortes, mais qui vont être plus des moments ou des émotions, mais dans la durée, ça s'éteint, ça peut pas, c'est pas sérieux. Par rapport à votre autre question sur les expériences mystiques, Dieu, dans son infinie tendresse et son amour, peut visiter des gens et leur donner des expériences de son intimité à l'intérieur d'eux-mêmes. La grande Thérèse d'Avila avait des extases, elle avait des ravissements. C'est très particulier. C'est de l'ordre de ce qu'on appelle les rencontres intimes avec Dieu dans le cœur de la personne. Ça, c'est pas des choses qu'on provoque. C'est des choses qui arrivent. Si vous êtes familier avec la Lectio Divina, quand vous avez fait vos méditations, vous tombez en contemplation, il se peut que vous viviez des choses très, très profondes après avoir communié, entre autres, qui sont des grandes intimités avec Dieu, qui sont vécues de façon personnelle. Ça, c'est pas en Église, en sens que c'est pas toute votre rangée à l'Église qui va vivre ça, c'est vous. Et vous avez le droit. Puis c'est dans votre cœur. Puis remerciez le bon Dieu. De vivre des choses comme ça, ça peut vous amener à transformer votre vie, mais c'est pas en soi une conversion. Ça, c'est une rencontre mystique, intime avec Dieu, qui peut s'appeler ravissement, extase, prenez les mots que vous voudrez. Il y en a qui appellent ça des visitations, des rencontres intimes. Ça existe, c'est réel.
Un pic, hein, dans certains vocabulaire de la sociologie religieuse.
Tout à fait. Mais conséquent de ça, évidemment, les gens qui vivent ça, moi, ça me surprendait qu'ils sortent pas de l'Église en essayant de faire plus de bien, en essayant d'être plus charitable, en essayant d'être plus priant. Ça serait assez surprenant qu'ils vivent ça, puis qu'ils sortent, puis comme si c'était rien passé. Alors, suite à leur expérience mystique, ils auront sûrement une plus grande interpellation dans leur vie à une conversion très concrète de leurs préjugés, de leur charité, de leur façon d'être avec les gens. C'est de l'ordre de la conséquence.
D'accord. Et donc, c'est une conversion au sens où on est appelé à tout le monde à en vivre.
Exactement.
Effectivement. Vous parlez de l'importance de la durée, de la conduite, et il y a une sorte de discernement. Vous avez employé le mot tout à l'heure, à partir d'Ignace,
oui,
je pense.
Oui. Vous savez, quand Ignace a réfléchi sur qu'est-ce qui se passe quand on se convertit, quand on découvre la présence agissante de Dieu dans une vie, ben écoutez, ça a des conséquences. Et c'est quoi les conséquences? C'est que dans une vie, dans une journée, par exemple, les gens qui nous écoutent, là, dans une journée, ils font beaucoup de choix. Là, ils viennent d'en faire un, moi, je trouve très, très intelligent, qui est celui de nous écouter. Mais c'est quand même un choix, vous avouerez. Bon, alors vous en faites beaucoup de choix dans une journée. Qu'est-ce qui les motive? Et si je suis un converti, ce qui normalement devrait motiver mes choix, c'est ma relation avec Jésus. Alors, quand Ignace dit au début des exercices spirituels, au numéro 23, « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu » et par là sauver son âme, il veut dire que dans le fond, nos choix, ils devraient normalement être pour louer Dieu, l'aimer, le servir, puis nous occuper de notre prochain. Il y a des gens qui font des choix, puis c'est drôle parce que, regardez là, on a fait un choix il n'y a pas longtemps, hein, le lundi de 2 mai, tout le monde a voté, ben fait presque, les gens ont fait un choix. Bon, c'est un choix politique. Vous faites des choix économiques, vous faites des choix de santé, vous décidez de manger telle chose ou telle chose, c'est des choix ça. Vous faites le choix de vos amis, vous faites le choix de vos loisirs. Bon, écoutez, on passe notre journée à faire des choix.
On peut pas penser à l'évangile à chaque fois, Pierre. Excusez.
Non, vous avez raison. Oui, vous avez raison, mais en même temps, une maman, elle pense pratiquement tout le temps à ses enfants, peu importe ce qu'elle fait. Des gens en amour, ils pensent à l'autre quasiment tout le temps. On dit des fois en rien, il voit sa blonde dans sa soupe. Oui. Bon, nous autres, on devrait voir au fond Jésus dans notre soupe. On devrait voir que l'importance, vous savez, Jean-Paul II disait, et je trouve ça très, très beau, puis justement, on vient de le béatifier, c'est beau d'en parler. Jean-Paul II disait, à chacune de nos Eucharisties, il faudrait qu'on sorte avec une urgence de charité. Quelle belle parole du pape Jean-Paul II. Alors, voyez-vous, pas y penser tout le temps, mais y penser pas mal souvent. Et je pense que c'est ça le discernement, c'est de faire des choix en me demandant ceci. Supposons qu'on vous demande de vous engager dans quelque chose, qu'on vous demande de faire un don à un organisme, qu'on vous demande de vous occuper de quelqu'un qui est malade, enfin, toutes les situations de nos vies. On peut se poser la question comme ça. Cela va-t-il m'aider à mieux aimer le Seigneur et le servir si je dis oui à ça? Puis savez-vous que des fois, vous allez être surpris, mais des fois, il faut dire non. Il faut dire non pour protéger notre santé, il faut dire non pour protéger notre équilibre, puis il faut dire non parce que ce n'est pas vraiment des choses utiles à notre vie. Mais si c'est dans l'ordre du discernement, c'est dans l'ordre de mieux aimer, mieux servir Jésus, mieux aimer les autres, vous dites oui. Alors la conversion, une de ses grandes conséquences, si ma rencontre avec Jésus, qu'elle ait eu lieu dans un choc soudain ou qu'elle ait eu lieu doucement à travers la vie, peu importe que ce soit un choc ou que ce soit doucement, la conséquence est la même, elle m'amène au discernement, c'est-à-dire elle m'amène à faire de ma vie un lieu où Dieu se trouve présent. Et Dieu y est présent où? Il est présent dans mes choix.
C'est donc un élément de la durabilité, je dirais. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça.
Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'un converti, c'est quelqu'un qui fait des choix à partir de sa relation d'être avec Jésus-Christ. Ça, c'est un élément de la conversion. Ma façon de vivre et de faire des choix. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for. If it be your will, if it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, if it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well, and you draw us near and bind us tight, all your children here,
streets of land, all dressed to kill. And in this name, if it be your will, if it be your will.
Nous venons d'entendre une chanson de Leonard Cohen intitulée If It Be Your Will. Pierre Francaire, vous comparez souvent l'expérience de conversion à l'expérience amoureuse. J'ai réagi assez spontanément en disant on ne peut pas penser à l'Évangile tout le temps. Pourtant, je l'enseigne. Et puis, je n'y pense pas seulement quand je l'enseigne, précisons-le. Mais je réalise que je garde l'image d'une conversion comme étant un moment intense, un peu de la même manière donc qu'une relation amoureuse, à un moment donné, non, on ne voit plus l'autre dans sa soupe. Je suis désolée, mais c'est comme ça, puis vous le savez sûrement. Enfin, on est au Tabor de temps en temps, on est sur le mont Tabor, hein, puis on le voit là, on a la transfiguration, même si c'est pas toujours aussi clair, mais la plupart du temps, on est en bas de la montagne.
Hein. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'Église, dans sa sagesse, à chaque année, nous rappelle au début du carême, « Convertis-toi ». Vous savez, j'ai donné ma vie au bon Dieu, moi, puis j'en suis très content, mais il m'arrive peut-être de l'oublier, et c'est là que j'ai besoin du sacrement de l'Eucharistie pour me le rappeler, le sacrement du pardon pour me mettre sur la bonne voie si jamais je me suis écarté. Vous savez, les sacrements, ils sont là pour nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes appelés à la conversion. Et la communauté chrétienne, l'Église, elle a comme fonction de nous rappeler que nous sommes des gens convertis et à convertir. Et un couple qui prend pas soin de son amour, il va s'éteindre. Des parents et des enfants qui apprennent pas à s'aimer, à se connaître et à se parler, ils vont finir par s'ignorer. Quelqu'un qui oublie la présence agissante de Jésus dans sa vie va finir par vivre sans Dieu. Alors la conversion, c'est cette espèce de conscience responsable que Dieu m'aime, mais que je dois répondre à cet amour-là. Et une chose que je trouve intéressante qu'on n'avait pas encore dit, c'est que dans la conversion, puis votre question amène à ça de façon bien intéressante, c'est que dans la conversion, il y a une responsabilité. La conversion, vous savez, c'est pas une tuile du plafond qui se détache, qui me tombe sur la tête et je suis converti. Quand j'ai dit tantôt, au début de notre entrevue, que la conversion, c'était une initiative de Dieu à une réponse de liberté. Une réponse de liberté, là, ça entraîne ma responsabilité et ma conscience. Et vous avez parfaitement raison quand vous dites qu'on est en amour, mais qu'à un moment donné, on ne voit plus l'autre dans sa soupe du tout, du tout. Vous avez parfaitement raison. Mais si je veux revoir l'autre dans ma soupe, peut-être qu'il faut que je refasse des soupes, que je me rassoie à table, puis que je prenne conscience de la présence de l'autre. Ben écoutez, mettez ça au plan spirituel, faut que je retourne à la prière, que je fréquente les sacrements, puis que je fasse des petits moments d'arrêt et de discernement.
Que je retrouve mes ananies, peut-être,
voilà,
aussi.
Voilà, en plus.
Que j'aille rencontrer...
Des personnes qui m'aident, qui sont des témoins dans ma vie, puis j'aime oublier que il y en a qui sont mes ananies, mais oublions pas que nous sommes aussi, nous, l'ananie de quelqu'un. L'ananie de quelqu'un. C'est-à-dire que moi aussi, je peux être un instrument de Dieu pour les autres. Alors, c'est bien d'identifier ceux qui sont mes ananies, mais il est bien aussi de reconnaître que parfois, Dieu me demande à moi d'être un ananie. Donc, plus je serai converti, plus je serai en lien d'être dans ma relation intime avec le Christ, plus je risque de devenir moi-même un ananie. Oui. Et si j'en suis un, et que je reconnais ceux qui sont dans ma vie, ben écoutez, entre ananie, on va se retrouver, on va se reconnaître, puis là, on va vivre le processus de la conversion en Église, c'est qu'on va s'encourager les uns les autres à se convertir.
Tout à fait. Et ça, je peux, oui, le confirmer pour avoir accompagné des étudiantes ici, à l'Institut de pastoral, qui étaient des ce qu'on appelle... depuis 15-20 ans, je pense, des recommençants, c'est-à-dire des gens donc qui avaient été baptisés, confirmés, tout ça, mais qui voyaient plus d'intérêt à la religion et qui ont vécu un moment dont elles peuvent parler comme ensuite il y a eu un avant et un après. Mais quoi qu'il en soit, je dois dire que ayant à les accompagner, non pas comme accompagnatrice spirituelle, mais comme conseillère d'études, moi j'ai été interpellée et évangélisée beaucoup par ces expériences-là. Et donc, le Ananie reçoit lui-même de Paul où il y a une circulation, je dirais, de la gratuité de Dieu. Hein. Voir la gratuité de Dieu à l'œuvre chez l'autre, ça me rappelle qu'elle est à l'œuvre chez moi.
Tout à fait. La conversion, c'est un échange de bons procédés de foi. La conversion, c'est un appel que Dieu me fait à moi, mais qui fait à l'autre, puis qui nous fait ensemble en Église. C'est pour ça que la conversion, on aurait pu réfléchir aussi à une autre heure, mais on aurait pu parler de la sainteté, vous savez, puis on aurait été dans le même registre. Parce que la sainteté, c'est la reconnaissance de la présence de Dieu dans ma vie. C'est Dieu qui me rend saint ou sainte, comme dit Thérèse de Lisieux. C'est lui qui me fera sainte. Hein? C'est pas la somme de nos efforts qui fait notre sainteté. C'est la profondeur de notre abandon à son amour. Ben écoutez, la conversion, c'est la même chose. Plus je serai conscient que Dieu m'interpelle, que Dieu m'appelle, qu'il m'envoie des signes de sa présence, plus je saurai les lire, plus je saurai les interpréter, plus je saurai les relier à lui, plus je serai quelqu'un en voie et en processus de conversion. Ce qui fait que la conversion, c'est à la fois un choc et à la fois un événement de tous les jours dans une dynamique de vie et une dynamique de charité.
Oui. D'ailleurs, et une dynamique d'amour, on pourrait dire, dans la description de votre cours, vous parlez de l'expérience de conversion comme, entre autres, la découverte d'être aimé de Dieu. Avant même toute réponse, avant même toute demande, toute vocation au sens de vocari, être appelé à faire quelque chose, il y a, à partir d'un certain moment, chez des gens, la certitude intérieure, profonde, immense, que Dieu les aime, tout à fait autrement que comme quand on leur disait, tu sais, Dieu t'aime, là.
Tout à fait. Vous savez, dans les mots-clés de la vie chrétienne, un petit livre que j'ai écrit pour aider des personnes et des groupes de réflexion et de prière à cheminer, les quatre premiers mots sont les quatre grandes réalités de notre foi, hein, c'est-à-dire la vocation, l'histoire, la mission et la charité. Ben écoutez, la conversion, c'est lié à la rencontre et à l'appel que Dieu fait au cœur de ma vie, qui est ma vocation. Ça se fait toujours dans une histoire, la mienne, qui est personnelle, soit comme un accident, un deuil, un changement, une maladie, enfin, ou une grande joie aussi peut être source de grande conversion.
C'est dans notre histoire.
Dans notre histoire perso, puis dans l'histoire du monde. L'Église a vécu des grandes conversions au cours de l'histoire. Tout ça, ça me fait déboucher sur une mission, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment Dieu voit-il les dons qu'il a mis en moi? Comment je les fais progresser? Comment je les développe? La conversion, ça m'amène à être de plus en plus ce que je suis pour les autres à cause de ma relation à Dieu. Puis finalement, ben, ça débouche sur la charité, sur la qualité de ma compassion, de ma tendresse, de mon souci des autres. Alors voyez-vous, la conversion, c'est au cœur de notre expérience de vie chrétienne, c'est au cœur de notre expérience. C'est pas à vous que je vais expliquer ça, une grande bibliste, mais me semble dans mes souvenirs que l'évangile de Marc commence par « Convertissez-vous, le règne de Dieu est proche
oui. ».
Ben, je pense que tous les jours, on peut le vivre.
Oui. Et croyez à la bonne nouvelle. Hein, c'est la première phrase de Jésus. Croyez à la bonne nouvelle. Se convertir, chez Marc, c'est croire à la bonne nouvelle. Ce qui me ramène, c'est ça, à la conviction chez certains convertis que ce qui est moteur en eux de leur conversion, c'est d'avoir compris que Dieu les aime. Et donc, ça leur advient comme une bonne nouvelle avant d'être quelques demandes que ça puisse être.
Tout à fait. Puis c'est vraiment ce que l'expérience profonde que les gens ont fait, s'il y en a parmi les auditeurs et auditrices l'ont vécu, c'est vraiment l'expérience fondamentale des exercices spirituels de Saint-Ignace, qui est le, je dirais, celui qui en a probablement le mieux parlé de la conversion, c'est justement de comprendre à quel point Jésus m'aime, moi, veut mon salut et en même temps le salut du monde.
Ouais.
Vous savez, il y a une phrase qu'on dit à la messe qui, je pense, est un très beau résumé de tout ce qu'on vient de se dire sur la conversion. C'est quand on dit « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Être un converti, c'est ça. On vit pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire manifester sa présence au cœur du monde, dans ma vie, dans celle des autres, en la faisant naître et en la reconnaissant, donc la gloire de Dieu. Et le salut du monde, ben, c'est le but pour lequel on est là, c'est le but pour lequel Jésus est venu, c'est le but pour lequel on a vécu Pâques. Alors la conversion, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Pierre Francaire, merci.
Bienvenue.
Je remercie chaleureusement Pierre Francaire d'avoir bien voulu partager avec nous sa réflexion et aussi les fruits de son expérience comme accompagnateur spirituel. C'était non seulement éclairant sur l'expérience comme telle de la conversion, mais je dirais que ça nous invite aussi à élargir nos perceptions de ce que l'on appelle une conversion et à la voir peut-être comme une expérience continue et au quotidien de la vie. Je signale 4 publications de Pierre Francoeur, toutes éditées chez Mediapol, 4 petits livres entre 60 et 80 pages de lecture très facile et très intéressante. Ces références seront disponibles sur le site Internet de l'Institut de Pastoral. Au microphone, c'est Francine Robert. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série « Croire d'hier à demain », produite pour Radio Ville-Marie par l'Institut de Pastoral des Dominicains dans le cadre de son 50e anniversaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À bientôt.